le plan que je pense aborder au tableau, il y a des aspects qui passeront très rapidement, sur lesquels je passerai très rapidement, mais sur lesquels j'espère qu'on pourra revenir plus rapidement, enfin plus profondément à l'oral. Je me débrouillerai de toute façon mieux à l'oral qu'à l'écrit, parce que c'est un travail qui fait sur de, qui a, enfin, ça fait un moment que je suis dessus, donc j'ai un peu de mal des fois à sortir la tête de l'eau, comme on dit, et voir la nuance entre ce que les personnes, ou les idées que les personnes ont sur le sujet et celles que moi j'ai déjà rencontrées. Donc j'essayais quand même de traiter de manière un peu, de manière large. Si j'ai fait le plan, c'est pour qu'on puisse se repérer un peu dans la progression, parce que vous allez voir que quand on rentre dans un sujet, après c'est difficile d'en sortir et de se rappeler qu'il y a d'autres aspects qu'il faut aborder. Donc le premier aspect que je voulais aborder, c'est la question de l'amélioration, de ce qu'on entend par amélioration. Ce que le transhumanisme prétend, au début en tout cas, maintenant en France le terme a été modifié justement, prétendait améliorer l'être humain, faire une modification de l'homme pour l'améliorer. Il s'agissait d'améliorer l'être humain. On parlait en anglais de enhancement, et le terme qui a été retenu en français pour la traduction de ce mot récemment, parce qu'au moment où j'ai fait le mémoire, il n'y avait pas le terme, c'est augmenter. C'est-à-dire que maintenant on parle d'homme augmenté. Pourquoi on parle d'homme augmenté au lieu d'améliorer? Précisément parce qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à se dire qu'effectivement, certains des termes qui étaient employés l'étaient à dessein pour des raisons un peu, qu'on va dire, qu'on dirait maintenant de storytelling ou narrative. C'est-à-dire qu'on en parlera dans la deuxième partie, mais on vous raconte une histoire sur des projets que l'on veut vous vendre et on emploie les mots qui sont adéquats. C'est comme quand on appelle par exemple, je sais pas, les universités ou des lieux d'excellence. C'est-à-dire que du coup, on ne débat pas si c'est bien ou si c'est dans des bonnes ou des mauvaises universités, puisque c'est là où on y forme l'excellence, de toute façon. Ne posez pas la question. Voilà, tout ça, c'est le registre de la communication, qui d'un point de vue philosophique nous pose de nombreux problèmes, parce que nous, on voudrait bien parler de ce que c'est, et pas des mots qu'on place dessus pour faire dire autre chose. Donc en français, on emploie communément le terme de « augmentation » au lieu d'amélioration. Pour moi, ce terme-là est déjà sujet à débat, le terme d'augmentation, même si je le préfère à effectivement le terme d'amélioration. Et pour moi, on aurait été mieux placé de parler de modification, dans la mesure où pour parler d'une augmentation, enfin déjà augmentation c'est quand même plus facile à saisir que amélioration, ça je suis d'accord. Mais modification, ça m'aurait semblé un peu plus juste, un peu de la même manière qu'on avait parlé, qu'on s'était décidé à un moment à employer le terme, avec, après de nombreux débats, pour exemple, d'organismes génétiquement modifiés. Parce que là aussi, il s'agit de modification. En fait, poser un jugement, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'amélioration ou de perfectionnement, c'est déjà avoir des critères moraux ou des critères d'évaluation qui permettent de dire cette chose est bonne ou cette chose est mauvaise, et elle va vers une amélioration ou une perfection. Or, ces critères-là, si on n'en débat pas, c'est-à-dire si on dit d'entrée c'est une amélioration, une progression, une perfection, ça veut dire qu'on écarte la discussion sur les termes de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Du coup, on échappe en fait en partie au débat, et on a en quelque sorte résolu la question, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus de problème. Après tout, si c'est une amélioration, si ça va dans le sens de l'aperfectionnement, pourquoi est-ce qu'on en débattrait? Tout va bien. Donc si, le terme en fait de modification me semblait intéressant dans la mesure où il nous libère un peu des conditions du débat, dans la possibilité de se demander selon quels critères est-ce qu'on peut parler d'amélioration. Qu'est-ce qui fait sens? Pourquoi est-ce que ça serait une amélioration? Pourquoi ça ne serait pas une diminution? Est-ce qu'il y a une perte? Est-ce qu'il y a un gain? Dans quoi? Voilà, tout ça, c'est des sujets à débat. Je ne vais pas répondre sur ces questions-là. Je tentais, dans un premier temps, de les libérer. Déjà, de la même manière que certains parlent d'augmentation, d'autres parleront aussi d'accumulation. Et ça fait rentrer aussi un peu un terme pas péjoratif, mais il y a un début de critique, c'est-à-dire on sous-entend que effectivement l'accumulation de nouveaux objets ou de nouvelles techniques n'est pas la même chose que l'amélioration, quantité n'est pas qualité, etc., des distinctions classiques. Alors effectivement, vous pouvez rencontrer parfois ces termes-là. Je pense que modification est plus neutre de ce point de vue-là. Et quand on traite du coup du transhumanisme de ce point de vue moral et politique, en se demandant est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, il faut avoir aussi des critères en vue, des thèmes en vue. Par exemple, d'une part, en général, on recoupe trois aspects qui sont l'autonomie, d'une part de la personne, avec des gros débats sur ce que ça signifie que l'autonomie, la bienveillance ou la malveillance, donc c'est la question des intentions, que l'on rencontre en morale assez couramment, et la justice pour soi ou vis-à-vis de la société. Donc trois aspects qui sont les aspects éthiques et moraux. Cependant, il faut aussi faire attention à ces aspects-là, c'est qu'on risque, parce qu'on apprécie ou déprécie, pour ainsi dire, parce qu'on a des préjugés sur ce sujet-là, on risque aussi de louper les aspects un peu épistémologiques, les aspects définitionnels, concrets, l'analyse du réel, j'aime bien rappeler qu'il faut détacher la description de la prescription ou de la recommandation, etc. C'est pas la même chose. On peut décrire un sujet et après avoir un avis moral dessus. C'est deux choses différentes. Même si, souvent, dans le cadre de la philosophie, je parle pas du cadre des sciences ou d'autres sujets, on peut avoir déjà dans la description des choix, effectivement, des choix spécifiques qui peuvent correspondre à des raisons politiques et morales, qui fait qu'on va décrire certains aspects plutôt que d'autres, par exemple, qu'on va accentuer certains aspects plutôt que d'autres. Donc ça, il faut le repérer. En gros, voilà, ça c'est ce que je voulais dire, sur la première partie de l'amélioration. Donc distinguez bien ce qu'est une réparation, une augmentation ou encore une amélioration. Donc ce sont des termes différents qui n'ont pas le même sens. Et après, il y a un autre problème un peu plus spécifique dont je ne parlerai pas trop immédiatement, qui est la question de la perception sociale. C'est-à-dire qu'il y a certaines réparations, modifications ou augmentations qui sont plus ou moins perçus, plus ou moins visibles par d'autres personnes dans la société. C'est-à-dire que c'est pas simplement on peut s'être modifié soi et se dire tiens, je vais rejoindre la norme, par exemple je suis handicapé et je vais rejoindre la norme partagée par tout le monde, la normalité. Ça n'implique pas que tout le monde, que les personnes autour de vous aient le même regard sur vous précisément parce qu'il y a certaines modifications qui sont visibles ou pas. Donc c'est pour ça que certains termes pour les personnes handicapées par exemple ou mises en situation de handicap qui auront été modifiées, ils vont pas apprécier. Par exemple, on va leur parler d'une amélioration ou d'une augmentation. Alors c'est vrai qu'ils vont se sentir rejoindre la norme, mais en même temps on peut toujours avoir sur eux un regard un peu discriminant, en quelque sorte. Et inversement, vous pouvez avoir aussi des handicaps invisibles socialement, et qui pourtant vont avoir des impacts dans la vie personnelle, dans le vécu de la personne, et qui fait qu'elle va toujours se sentir mise à l'écart à cause de ça. Donc, mais ça, cet aspect-là, je ne vais pas forcément le développer ici, d'autant plus qu'on a tous les autres aspects. Le roman transhumanisme, qui est le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est, alors si j'emploie le terme de roman, c'est pour dire que initialement, en tout cas, quand le transhumanisme, tel que le transhumanisme se présente, il faut distinguer plusieurs choses, au moins trois choses. D'une part, l'existant, l'émergent et le spéculatif. Ces scénarios qu'on vous propose sur l'avenir de l'humanité. Il faut distinguer d'une part ce qui existe déjà, qu'on rencontre, ce qui est en train d'émerger, ce sur quoi on est en train de travailler, mais dont on ne sait pas encore trop sur quoi ça va aboutir, et le spéculatif, c'est-à-dire ce sur quoi pour l'instant on n'a vraiment rien développé, mais on a des idées quand même sur ce qui pourrait arriver. Cependant, on ne sait toujours pas si c'est réalisable ou pas. Donc ça, ce sont trois aspects qu'il faut bien distinguer et qui permettent de... et qu'il faut penser à chaque fois que quelqu'un va vous proposer un scénario sur le transhumanisme, être capable de vous demander, mais les techniques dont on me parle, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont spéculatives? Est-ce qu'elles sont émergentes? Ça vous permet de remettre à niveau ce qu'on vous dit, parce que avec le transhumanisme, on transporte deux perspectives importantes, qui sont d'une part le soin, donc on va faire croire qu'on va guérir de toutes les maladies, par exemple. C'est une promesse classique, malheureusement, qui arrive avec toutes les nouvelles technologies. Quand elle est arrivée avec les nanotechnologies, il y avait la promesse par des gens qui développaient ça de guérir toutes les maladies. Comme on l'a eu déjà sur le quand on nous a fait quand on a commencé à accéder au génome humain, on s'est dit, ben, grâce à la carte du génome humain, on va pouvoir éliminer toutes les maladies génétiques, etc. Bon, on attend toujours. Mais vous voyez, enfin, il y a une différence entre ce qu'on vous a promis et le niveau où on en est, donc il faut en avoir conscience. Et cette promesse existe aussi avec les transhumanismes. Et de la même manière, c'est la même chose pour les scénarios catastrophistes. C'est-à-dire qu'on va aussi, d'un côté, vous promettre toutes les guérisons, tous les soins, mais de l'autre aussi, toutes les catastrophes, jusqu'à l'annihilation de l'humanité par une intelligence artificielle qui jugerait que finalement, cette humanité n'est pas très rationnelle et dont on peut s'en débarrasser. Donc tout ça, ce sont des scénarios qui existent, mais voilà, il faut savoir, il faut faire attention à la manière dont on les évalue, pour avoir une émotion qui s'adapte à ça, et pas qu'on soit pris dans un scénario qui a pour objectif précisément de créer cette émotion et qu'on y réagisse de manière quasiment instinctive. Et ensuite, j'ai lu le roman transhumaniste, mais en fait, il aurait fallu peut-être dire plus justement les romans transhumanistes, dans la manière où, la mesure où, pour les transhumanistes, il n'y a pas un transhumanisme, mais plusieurs transhumanismes. Au début, ils n'étaient pas sur cette idée-là, mais ils y sont arrivés au fur et à mesure qu'ils ont commencé à voir qu'ils n'étaient pas d'accord sur certains sujets. Et du coup, il a bien fallu acter l'idée qu'il y aurait différents transhumanismes. Alors, on peut parler dans ce cadre-là. Moi, je vais vous présenter le scénario, on va dire de manière, enfin, jusqu'à son extrême. Je vais vous présenter l'aspect le plus large. Mais il faut bien voir, qu'il y a trois étapes pour ceux qui sont dans les plus extrêmes, ou alors trois formes de croyances. Si vous en choisissez une plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que si vous êtes dans la croyance, on va dire, la plus extrême, qui est celle de la post-humanité, vous considérerez les phases antérieures comme des étapes. Alors que si vous êtes plus dans l'idée juste de la transition, d'amélioration d'un être humain par des modifications génétiques, vous serez dans une croyance sans forcément dire que c'est une étape parmi d'autres. Vous allez plutôt dire l'autre perspective, par exemple la post-humanité, c'est pas... une étape, c'est juste un délire de quelques personnes. Et vous avez des auteurs qui commencent à avoir cette position-là. Par exemple, Luc Ferry, notre ancien ministre, récemment a commencé à se positionner sur le transhumanisme. Et lui est favorable à une vision du transhumanisme dans la mesure où il entendrait comme un progrès dans la modification de l'être humain pour répondre à des questions de médecine. Mais il rejette complètement tout ce qui concerne la post-humanité en les traitant comme des discours, je ne sais plus quel était son terme exact, mais on va dire ahurissant, qui pour lui ne concerne pas du tout la réalité, alors que pour d'autres personnes, ça l'est. Donc il faut voir ces trois aspects. Donc il y a trois aspects qui sont la transition, la singularité et la post-humanité. Alors, transition, singularité... post-humanité. Alors, si vous êtes adhérent à la post-humanité, vous allez croire que ce qu'il y a avant, en quelque sorte, ce sont des étapes. Mais sinon, chacune de ces croyances peut être traitée de manière différente. Transition, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la transition, on a l'idée que on va modifier certains êtres humains, qu'on peut parler d'humains augmentés, d'humains particuliers qu'on va augmenter, et on va faire émerger de nouvelles capacités éventuellement, avec des débats sur est-ce qu'on peut généraliser ou pas ces capacités-là, ces choses qu'on apporte, et est-ce qu'il faut le faire, etc. C'est la base, et c'est ce sur laquelle, en général, la plupart des gens s'entendent pour débattre et qui perçoivent comme étant un sujet d'actualité. Ensuite, vous avez la singularité. La singularité, c'est quand même autre chose. Par ce terme, on entend l'avènement d'une ou plusieurs intelligences dites artificielles. Donc on verra plus tard, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par intelligence d'une part, mais on verra un problème sur ce qu'on entend par intelligence, qui serait forte, sous-entendu consciente d'elle-même, Il y aura des débats en philosophie sur est-ce qu'on peut avoir conscience de nous-mêmes ou est-ce qu'en fait on a conscience de nos souvenirs et la conscience d'elle-même serait une illusion. Est-ce que la conscience elle-même existe ou est-ce que c'est différents processus qu'ensuite notre esprit recoupe ou rassemble en disant en fait c'est la conscience ou j'ai conscience de ces choses-là, etc. Donc il pense qu'il y a une intelligence artificielle qui, ou des intelligences artificielles qui seraient plus ou moins autonomes par rapport aux êtres humains et qui, dont on craint ou espère les intentions vis-à-vis des humains. C'est-à-dire qu'on se demande comment est-ce qu'elle va traiter les êtres humains. Est-ce que cette intelligence artificielle qui apparaîtrait, est-ce qu'elle va considérer que les humains ce sont des alliés ou des gens qu'on peut négliger, des gens qu'il faudrait aider, etc. Donc ces questions-là se posent. On verra plus tard comment elles sont traitées. Et le troisième aspect, c'est la post-humanité. Donc la post-humanité, c'est l'idée, il y a plusieurs idées. Bon, d'une part, il y a ce qu'on appelle, et qui est très connu parce que ça, c'est choquant, on va dire, enfin, c'est choquant, c'est surprenant. C'est le téléchargement de la conscience dans une machine, avec souvent un oubli du débat de qu'est-ce que la conscience. Donc ça pose de nombreux problèmes, notamment l'unité du moi qui est téléchargée. Ça va de l'unité du moi à sa dissolution, parce que une fois qu'on télécharge quelque chose dans une machine, où sont les limites du moi? Est-ce qu'elles sont éparpillées, rassemblées, mélangées à d'autres personnes? C'est difficile à déterminer. Et ou alors ce qu'on appelle la modification de la nature humaine, et pas simplement d'un humain. Et qu'est-ce qu'on veut dire par de nature humaine? En fait, c'est de l'espèce humaine augmentée. C'est-à-dire que là, on va parler clairement d'eugénisme, avec la possibilité éventuellement d'engendrer plus tard une post-humanité, donc une modification qui serait faite sur l'humain au niveau du génome et qui à travers la reproduction donnerait lieu éventuellement à une autre espèce. Bon, ça c'est une question, on voit donc pourquoi est-ce qu'il y a ces paliers, si ce sont des paliers, ou ces croyances, et on peut assez facilement imaginer pourquoi chacun s'arrête plus ou moins à certains de ces débats. Donc j'insiste bien, il faut bien distinguer un humain augmenté, qui serait un individu spécifiquement modifié, d'une modification de l'espèce humaine, là on parle de la génétique, donc ce sont deux termes de modification qu'il faut distinguer, sachant que la technique apporte standardisation et reproduction, souvent, il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des humains en série, ou des sérialisations des humains qui correspondent à des fonctions, comme on le voit souvent dans des romans de science-fiction, de nos jours, on a beaucoup cette idée-là, avec des humains spécialisés pour certaines fonctions, certaines tâches, à la naissance. Mais c'est une vieille idée, chez Platon, dans la République, les êtres humains naissent et ils naissent de terres différentes, avec un intérieur différent, etc. Et ça lui permet de justifier une hiérarchisation sociale, etc. Et enfin, il faut distinguer ces deux modifications dont j'ai parlé antérieurement, d'une troisième qui serait une modification morale, qui est beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire que l'idée du transhumanisme, si on le réduit à l'idée d'avoir de meilleures capacités morales, dans ce cas-là, on appelle ça l'humanisme, et puis c'est terminé. C'est une vieille idée, effectivement, l'amélioration morale. Mais précisément, avec le transhumanisme, on ne parle pas que de ça, et il va bien falloir le distinguer. On ne parle pas simplement d'une amélioration morale. Parfois, elle n'est pas exclue, mais parfois, juste, on n'en parle pas. On parle bien d'autre chose, de quelque chose de spécifique, de récent, et dont on va essayer de préciser un peu de quoi il s'agit, puisque jusqu'à présent, je ne vais présenter que des perspectives. Alors, donc à présent, on va aborder le 3, aspect donc, culturel, historique et économique. Culturel, bon, j'en dirais juste une chose, ou historique, c'est que c'est une idée ancienne qu'on retrouve dans plein de cultures. On voit ça un peu chez Icare, mais un peu dans l'idée du golem, et on voit ça plus précisément, de manière plus proche de ce qu'on entend aujourd'hui, dans l'idée de l'alchimie. Si vous regardez ce qu'était l'alchimie, ou ce qu'était son projet, donc la création d'un homoncule, d'un être humain artificiel, qui aurait la vie éternelle à travers la mise au point d'une pierre philosophale qui lui permettrait d'atteindre. Enfin, il y a tout le thème du transhumanisme se retrouve quasiment mot pour mot dans le projet de l'alchimie. Mais on ne va pas approfondir dessus et on va rentrer. Enfin, sauf si vous le voulez après dans les discussions, tout ce que je dis peut être largement discuté. Et on va rentrer dans ce qu'on entend aujourd'hui par le transhumanisme, et on voit, voir à partir de quand est-ce que ça naît. Alors ça naît, d'abord le vocabulaire, le terme transhumain, tel qu'on l'entend aujourd'hui, apparaît chez Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley. En fait, si vous voulez, on connaît Aldous Huxley précisément pour son roman Le meilleur des mondes. Mais si Aldous Huxley a écrit Le meilleur des mondes, c'est entre autres précisément pour critiquer la position de son frère, donc Julian Huxley, qui a inventé le terme de transhumanisme. Parce que le projet de Julian Huxley, c'était un homme qui se transcende, qui donne lieu à une nouvelle espèce humaine, plus apte à accomplir sa destinée. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on entend aujourd'hui hein, par transhumanisme. Ouais, il y a une évolution, il y a une petite distinction, mais déjà, on le voit à travers Le meilleur des mondes, hein, les thèmes et les thématiques employées dans Le meilleur des mondes sont assez proches finalement parfois de ce qu'on peut retrouver dans la question du transhumanisme. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a cet aspect-là. Ensuite, dans les années 70, parce que bon, ça c'est en 1957. Après, dans les années 1970, on a des premières personnes qui commencent à revendiquer l'idée de pouvoir être éventuellement immortel. Donc on a, alors je ne sais pas comment ça se prononce, parce que Ferhendun M. Esfandiari, qui s'est plus connu sous le nom de FM 2030 parmi les transhumanistes évidemment, et qui lui, d'après ses prédictions, en 2030, nous serons immortels et tout un chacun aura la grande chance de vivre éternellement. Malheureusement, il décédera en l'an 2000, à 70 ans.
C'est ballot.
Et il est maintenu actuellement sous cryogénisation.
Donc il n'est pas décédé.
Alors, donc il n'est pas décédé, ça c'est ce que disent effectivement les partisans de la cryogénisation. On verra que la cryogénisation, c'est peut-être... Bon, c'est moins la mode hein, maintenant, mais il y a des gens toujours qui se font cryogéniser. Bon, très peu, hein, si on prend la population mondiale, c'est vraiment... ça concerne très peu de personnes. Mais bon, là, il y a des gens qui y croient. Et... enfin, qui croient que c'est positif. Et donc, il se fait cryogéniser. Après lui, ou en même temps que lui, mais qui a donné lieu à une, plus tardivement, vous avez Max Mohr, qui, en 1990, a mis au point ce qu'on appelle l'Extropie Institute, qui est la première, si on veut, la première, ce qui se présente comme une université, en fait, bon, c'est une association, sur la question de l'extropie. Donc l'extropianisme, c'est un peu le premier nom qu'on donnait au transhumanisme, si vous voulez. Sous-entendu, on va combattre l'entropie physique, c'est-à-dire l'idée que l'énergie tend inévitablement vers sa disparition, ou ça, quelque chose qui n'est plus utilisable, pour mettre en place une extropie qui, en quelque sorte, permettrait de s'échapper à cette logique-là. Bon, ça s'appelait l'Extropie Institute, mais ça, c'était dans les années 90. Mais là où vraiment on a l'émergence, ou l'officialisation, si on veut, du terme, du projet transhumaniste, c'est dans les années 2000, et, ouais, 2000, avec aux États-Unis un rapport qui a été écrit par que vous trouvez l'instance exactement, comment s'appelle cette instance, c'est une instance plus ou moins, si vous voulez, équivalente du CNRS, c'est la NSF, la National Science Foundation, mais avec un budget bien plus important et un autre cadre qui est celui des États-Unis. Et donc la NSF a mis au point un rapport écrit par Rocco et Brainbridge, je pourrais vous donner les références exactes, dans lequel elle dit clairement, et c'est pour les nanotechnologies, il y a un budget qui est lâché pour les nanotechnologies, c'est la nanotechnologie initiative qui est lâchée par Bill Clinton, hein, si je ne me trompe pas à l'époque, important, un gros budget, et le rapport qui a été écrit pour développer ces techniques-là, pour justifier ce développement de nanotechnologie, c'est un rapport qui s'appelle « Technologie convergente pour l'amélioration du fonctionnement humain ». Parce que vous imaginez le CNRS en France qui publie un rapport dans lequel il dit bon, on va développer les nanotechnologies pour modifier l'espèce humaine, en faire quelque chose de meilleur. Alors en France, ça paraît un peu aujourd'hui décalé, enfin ça nous paraît très décalé, bon maintenant ça l'est un peu moins, hein. On verra qu'en France aussi on a des partisans du transhumanisme. Mais à cette époque-là, oui, ça paraissait complètement décalé. Et donc ils développent ce projet-là pour lequel ils ont un budget, et c'est là qu'on comprend que le transhumanisme c'est pas simplement trois rigolos qui discutent d'un sujet dans leur petit milieu, quoi. Non, ce sont soit des scientifiques d'assez haut rang qui ont accès à des budgets importants, ou alors des gens, on le verra ensuite, aujourd'hui c'est plus clair, qui travaillent dans des grandes entreprises comme Google et qui ont à leur disposition un budget très important et des chercheurs qu'ils emploient, des unités de recherche qu'ils déploient pour développer le transhumanisme. Alors, comment ça se plaçait? Pourquoi est-ce qu'on parle des nanotechnologies? Mais parce que, en fait, on voyait ça dans le cadre d'une convergence technologique qui, à l'époque, s'appelait, enfin, on l'appelle souvent, alors, la celle dont on parle le plus, c'est NBIC. NBIC, pour nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, le I, et le C, technologie de la cognition. Cognition, c'est le cerveau, voilà. Alors, il s'agissait de faire converger ces techniques-là vers un objectif qui était la mise en place d'un homme nouveau. Bon. Et on nous présente en général ça comme étant ce qu'il se passe, comme étant une description. C'est-à-dire, on nous décrit, on nous dit c'est ce qui se passe, les technologies convergent. À la limite, on peut discuter de l'objectif, l'amélioration de l'homme, mais les technologies convergent. Alors, ça, c'est un scénario. C'est faux. Les technologies ne convergent pas. Si elles convergent, en tout cas, ça arrive. Si elles convergent, c'est parce qu'il y a un objectif politique pour les faire converger. C'est-à-dire que, en fait, NBIC, c'est l'appellation qu'ont donné certains chercheurs à cette convergence-là. Mais si vous regardez d'autres chercheurs, par exemple Ray Kurzweil, ils appelleront pas ça la convergence NBIC, ils appelleront ça la convergence NGR. Pourquoi NGR? Pour neurones, gènes et robotique. Le robotique, il apparaît pas dans notre version, mais pourquoi? Ben parce que Ray Kurzweil travaille dans la robotique. En fait, chaque chercheur ou chaque domaine de technologie va essayer de tirer la couverture vers lui de budget ou de recherche en nanotechnologie ou d'autres domaines et va dire, ben oui, ma recherche, ma technologie participe à la convergence et c'est une technologie du futur. Et vous avez beaucoup de chercheurs qui, du coup, vont essayer d'obtenir des budgets de recherche par ce biais-là, ce qui pose un problème éthique dans le cadre des chercheurs. Que j'avais rencontré sur les nanotechnologies. C'est-à-dire que j'étais allé à la conférence à Montpellier, à l'Université des sciences de Montpellier, où j'ai clairement entendu des professeurs en nanotechnologie dire à leurs étudiants, mais annoncez dans vos projets de recherche que vous allez utiliser certains mots comme écologie, médecine. En fait, on demande aux étudiants en sciences de mentir, puisqu'ils ne savent pas où va mener leur recherche, pour obtenir un budget pour leur recherche. Et après, on veut que le public soit, pour ainsi dire, rationnel vis-à-vis des chercheurs. Mais c'est difficile dans la mesure où, de l'autre côté, vous avez un encouragement posé sur ces chercheurs. C'est un problème éthique qu'ont les chercheurs dans le cadre de la société économique dans laquelle on est. C'est-à-dire que d'une part, ils ont besoin de budget ou d'économie pour faire leur recherche, mais d'autre part, on leur dit oui, mais pour obtenir ce budget, vous allez devoir promettre des choses que eux, chercheurs, savent bien qu'ils ne peuvent pas promettre. C'est-à-dire que quand on fait une recherche, on ne sait pas à l'avance où ça va mener, quoi. Sinon, on ne ferait pas la recherche. On dirait, ben voilà, on fait ça et puis c'est terminé. Non, ça va poser problème, d'une part. Et donc, une partie des chercheurs va être amené à mentir sur leur recherche et à certains à embrasser la perspective du transhumanisme pour obtenir des budgets. La plupart n'embrassaient pas cette perspective-là. En France, la plupart plutôt se contentaient de dire qu'ils faisaient des nanotechnologies alors qu'ils faisaient de la microtechnologie. Enfin, ils mentaient sur la taille parce que le nanomètre était et la taille du travail n'était pas tout le temps clairement définie. Et donc on pouvait un peu jouer sur ce jeu-là, sur cette ambiguïté-là. Et après, on leur disait, par contre, mettez à fond le terme développement durable, ces aspects-là. Donc, ça, effectivement, c'est un problème qui s'est posé. Alors, je reviens sur cette convergence. Alors, c'est les techniques de l'information qui permettent de contrôler les bits. la manipulation monoatomique, c'est comme ça que j'avais appelé à l'époque les nanotechnologies, mais maintenant c'est plus d'actualité, permet de contrôler et de manipuler les atomes. Les neurosciences cognitives permettent de manipuler les neurones. Et les techniques biologiques permettent de contrôler, manipuler et réorganiser les gènes. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on voyait un peu cette convergence. Pour leur dire autrement, tel que c'est écrit dans le rapport de la NSF, si les sciences cognitives peuvent le penser, les nanotechnologies peuvent le construire, les biotechnologies peuvent l'implanter, et les technologies de l'information peuvent le surveiller et le contrôler. Donc ça, c'était clairement le projet original. Tout un réductionnisme, comme on l'appellera aujourd'hui, pour permettre un langage commun. C'est-à-dire que cette convergence, vous comprenez bien, j'imagine, parce que certains d'entre vous sont peut-être chercheurs dans des domaines particuliers, chaque recherche ou chaque discipline a son langage, avec son jargon, etc. Et c'est déjà difficile parfois de se comprendre à l'intérieur de sa branche. Alors vous imaginez la difficulté qu'il y a pour quelqu'un qui travaille un peu dans la physique, de comprendre déjà un ami qui serait biologiste, mais en plus, non pas seulement de le comprendre, mais de travailler ensemble à travers un langage commun. Donc ça, ça va poser un gros problème. C'est pour ça que l'idée de la convergence des technologies, c'est souvent une idée très fumeuse dans la mesure où, matériellement, les chercheurs entre eux, la discussion et la mise en commun des domaines de recherche avec des jargons différents et des éléments de langage et de pratiques différentes est difficile. On ne fait pas ça simplement. Donc voilà, un peu pour dégonfler la baudruche, on va dire, qui est souvent présentée, la convergence des techniques. Alors aujourd'hui, cette convergence donc, se fait à travers différents auteurs. Donc vous avez Ray Kurzweil, qui a écrit ce livre. Bon, c'est un gros livre, hein, mais il est très facile à lire. C'est même un peu ennuyeux, on va dire. Et je ne sais pas si c'est la traduction. Des fois, c'est les traductions. Qui maintenant, depuis 2012, il est directeur de l'ingénierie chez Google. Il est auteur d'un autre livre qui s'appelle « Nous serons immortels », qui est sorti en français en 2006, qui aux États-Unis était sorti en 2004. Alors que vous voyez que la question de l'immortalité, elle se pose maintenant aujourd'hui en 2016. Donc il y a 10 ans de décalage entre le moment où il avait déjà écrit, où ses projets sont déjà là, et puis la manière dont on en parle publiquement en France. Donc il y a cet aspect-là. Donc lui, il met au point, il va développer vraiment les scénarios du transhumanisme à fond. Il va être souvent rejeté par beaucoup de gens qui adhèrent un peu aux idées du transhumanisme parce qu'il est présenté comme étant un des plus radicaux. Il faut comprendre que c'est un des plus motivés hein, parce qu'il a 68 ans aujourd'hui. Donc, son prédécesseur, il est mort à 70 ans. Donc, c'est un peu difficile. C'est le plus vieux hein, des transhumanismes. Il est motivé sur ça. Son père, il a perdu son père quand il avait 22 ans, lui. Il est très motivé, il le dit clairement dans une entrevue, pour recréer la conscience de son père. Il veut créer artificiellement, il veut simuler en fait sa conscience pour le refaire vivre dans une machine. Quoi. Donc c'est pas pour rien, en fait, si vous voulez que Kurzweil a ce projet-là, hein, ça se traduit dans sa vie, quand on la connaît un peu, quand on cherche un peu. Mais bon, il est souvent accusé de mysticisme, donc je pense qu'il ne faut pas non plus s'attarder trop sur lui, il faut le voir parce qu'il en fait partie. Et il en fait partie pas seulement à terme de je vais vous développer des scénarios, il en fait partie parce qu'il a aussi beaucoup d'argent et qu'il va développer des projets importants. Il va développer, entre autres, c'est lui qui va mettre au point la Singularity University, qui est aux États-Unis, c'est donc l'université de la singularité, donc vous rappelez, la au moins deuxième partie, parce que le problème, ils disent jusqu'à la singularité ça va, en gros, mais en gros, à partir du moment où il y a singularité, c'est-à-dire où il y a cette intelligence artificielle qui en quelque sorte s'autonomise, là on ne sait plus trop où ça va. Donc, du coup, l'idée c'est éventuellement de faire venir cette intelligence, et donc pour ça, ils ont mis au point des moyens de propagande. Hein, la singularité université, il faut le voir comme ça, hein, c'est pas un lieu de recherche où on se pose des questions, c'est un lieu de propagande du transhumanisme. Qui est un réseau ou une école privée qui se trouve dans la Silicon Valley, mais qui maintenant a des écoles dans d'autres pays, qui a été créé en 2009 en Californie, qui demande 30 000 dollars pour 10 semaines de cours, et qui a des antennes donc, dans plusieurs pays. Si je vous dis les sommes, c'est pour que vous compreniez aussi qui ça concerne. Hein. C'est-à-dire que souvent on nous présente le transhumanisme comme étant positif pour tout le monde, pourquoi pas, mais quand on regarde qui est-ce qui participe à ça, qui est-ce qui a les moyens, qui est-ce qui dirige un peu ça, qui est-ce qui a la main mise un peu sur ces projets-là, on voit que c'est pas tout le monde non plus. Hein. Ce sont des gens qui ont des moyens de se payer, par exemple. Et on parle, c'est des cours de propagande, enfin c'est de la propagande, hein, c'est des leçons de propagande, c'est pas, vous apprenez pas des nouvelles choses sur un domaine autre, hein, c'est comment parler aux autres de votre sujet. Voilà. Après ça veut pas dire que ce qu'ils enseignent n'a pas de valeur, est nul, etc. Sinon ils iraient pas et ils paieraient pas, c'est pas la question. C'est juste resituer. Donc, je vous rappelle, donc ils travaillent à Google. Donc Google a créé en 2013 Calico, pour California Life Company, c'est la California Life Company, Calico, qui est une société de biotechnologie dédiée à la lutte contre le vieillissement et ses maladies associées. Alors, bon, ils ont différents projets. Ils ont développé aussi, ils ont emprunté une personne qui s'appelle Arthur Levinson, qui est membre du conseil d'administration d'Apple et qui est l'ancien patron de Genentech. Et qui travaille un peu au séquençage ADN à travers un autre projet qui s'appelle Google Genomics, qui depuis 2013 travaille sur ça, et c'est lié aussi à des questions maintenant de robotique. On s'en doutait un peu, parce que c'était un peu le travail de Ray Kurzweil. Et donc Google finance la Singularity University, avec entre autres Larry Page et Serge Brin, qui sont les fondateurs de Google. Qui sont très impliqués dans le transhumanisme. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour des raisons de retour budgétaire qu'ils financent le transhumanisme, c'est aussi parce qu'ils y croient. Ils croient aux projets qui sont à l'intérieur. Ils collaborent en grande partie avec Novartis, entre autres. Je vais passer. Bon, donc Calico. Donc tout ça, c'est juste pour vous donner une idée des personnes. Et du rang des personnes qui travaillent là-dedans, c'est pas simplement un petit projet, c'est pas simplement des rigolos qui parlent de ça, c'est pas quelque chose qui dont on peut bien rigoler, mais qui est très loin, etc. C'est des projets dont on cherche énormément la concrétisation et qui en France sont présentés comme étant intéressants. Par exemple, la société, je pense, je vais dire ça, comment elle s'appelle ? La société Calico. Elle est présentée en France. Alors, en fait, la société Calico, en mars 2015, elle a passé un contrat avec une coalition, enfin, elle s'est mise dans le cadre d'une coalition entrepreneuriale qui s'appelle QB3. Alors, ça, c'est pas très connu, j'ai dû chercher parce que sinon, on n'en parle pas. Et alors, QB3 va servir en quelque sorte de société, on peut pas dire écran ou moins connue, pour développer des projets. Dans laquelle où sont reliées par exemple des sociétés qui elles sont plus connues mais qui ne veulent pas être trop connues comme étant participantes au transhumanisme. Par exemple L'Oréal Research, donc, la société hein, L'Oréal qu'on connaît, qui est impliquée dans QB3. En fait on verra plus tard, hein, il y a beaucoup de technologies qui refusent d'employer le terme de transhumanisme mais qui dans les faits, économiquement, par le jeu de la concurrence, vont faire des recherches qui vont dans cette perspective là parce qu'elles ont peur d'être dépassées par d'autres entreprises. Donc elles ne vont pas employer le terme transhumanisme, mais quand on regarde concrètement leur projet, on voit ça. La start-up dans Calico s'est associée à l'entreprise aussi Ancestry DNA pour comparer des millions d'échantillonnages génétiques avec d'autres arbres généalogiques dans l'espoir de dénicher le secret de la longévité. Donc tout ça, c'est décrit par le journal Libération. Et elle promet d'analyser l'analyse d'ADN à ses clients pour prévoir à l'avance des problèmes de maladies qu'ils pourraient avoir. Et en France, elle est décrite comme un modèle d'innovation biomédicale en expansion par la mission pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux États-Unis, qui a pour partenaire le CNRS, l'INSERM, le CNES et le CEA. Donc, voilà. Et les avis de certaines banques, je pense au Crédit Agricole notamment, qui finance certains aspects, mais pas simplement, certaines conférences en France sur le transhumanisme. Vous avez enfin, tout un ensemble d'entreprises françaises qui commencent effectivement à être un peu impliquées dans ces sujets-là. et qui voit ça de manière, on va dire, intéressante, même si le mot transhumanisme n'est pas forcément prononcé. Je pense notamment à Orange Research, qui fait de la recherche en santé connectée, dans une conférence qu'on peut trouver sur Internet sur le thème du transhumanisme. Il y a un de leurs chercheurs, le directeur de recherche de Orange Research, Ils Orange, quelque chose sur la santé, je ne me rappelle plus comment exactement le nom. Il dit clairement que s'il y a des projets qui vont vers l'humanité augmentée, dans la mesure où il y a des, en fait, ils financent des start-up qui font des recherches biomédicales en ce qu'on appelle la médecine connectée. Et il dit s'il y a des projets ou des start-up qui vont dans cette perspective-là, Orange n'exclut pas de participer à leur financement. Donc, même si pour eux, ce n'est pas le transhumanisme, parce qu'on verra, il y a un décalage, ce n'est pas le transhumanisme, économiquement, les moyens sont mis. Je vais m'arrêter là pour la perspective économique, et je vais rentrer un peu rapidement dans l'exploration avec pour que vous voyez concrètement, les débats un peu éthiques qu'il y a sur les perspectives développées par le transhumanisme. On a d'abord l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, je vous ai dit, la perspective de la singularité entre en jeu. Avant de parler de la singularité, qui est une perspective un peu lointaine, il y a des problèmes qu'on en a aujourd'hui, créés par la société, en quelque sorte, dans laquelle on est, de gestion de l'information. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations. Et on a du mal à gérer, à sélectionner l'information pertinente. Nos technologies, nos moyens d'agir agissent sur de grandes distances aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur ces grandes distances. On a besoin d'experts, d'informations, de journalistes, de gens qui vont nous dire quels sont les effets de nos activités à d'autres endroits. Donc ce n'est pas comme simplement vous qui êtes chez vous. Enfin, par exemple, quand on appuie sur un bouton électrique, par exemple, pour allumer la lumière, on n'a pas simplement la lumière, on actionne ou on participe à tout un réseau qui permet qu'on ait la lumière. C'est un système technique qui est entretenu. Et tout ça, ça pose des questions pour notre capacité de gestion de ces informations. C'est-à-dire que nous, on utilise ces techniques-là sans forcément savoir comment elles fonctionnent. C'est un peu le nouvel aspect magique de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prétend se débarrasser de la magie, des aspects spiritualistes. Mais concrètement, combien d'entre nous savent qu'est-ce qui se passe réellement quand on fait fonctionner la lumière, quand on appuie sur le bouton de sa voiture, etc. Tout ça, on ne le sait pas, et ça pourrait relever à peu près de la confiance, de la pensée magique, à part que nous, on délègue notre confiance en des scientifiques, mais concrètement, si on nous demande comment ça fonctionne, on est un peu mal placé. Donc du coup, il y a un problème de gestion de cette information, et on pourrait voir cette perspective-là de deux manières. Soit on se dirait, on va peut-être penser une société plus locale, avec des conséquences plus visibles pour nous. On va peut-être augmenter l'éducation justement de chacun d'entre nous pour mieux comprendre ce qui arrive. Ça pourrait être une perspective, mais c'est pas celle qui est développée par le transhumanisme. C'est précisément l'inverse. C'est-à-dire, on va pas se préoccuper de ça. On va développer des machines qui, à notre place, vont recueillir ces informations et essayer de les collecter, de faire le tri. Donc on abandonne l'idée de l'éducation et on la substitue par des moyens techniques qui vont y répondre à la place. Et qui vont gérer à notre place, selon des algorithmes qu'on ne programme pas, ou qu'on ne connaît pas non plus, pour Google par exemple, pour aller chercher l'information pertinente. Ils vont décider à notre place de la pertinence de l'information. Et donc, on va développer ces machines-là. C'est dans cet objectif-là que l'informatique est un élément central du transhumanisme. Il y a un collectage des données qui est accru, c'est-à-dire qu'on va pas simplement, on va demander de plus en plus, recueillir de plus en plus des gens des données. On va tout le temps vous demander si vous voulez dans des contrats que vous ne lisez pas, parce que de toute façon vous n'avez pas le temps, et puis vous dites j'accepte parce que bon vous en avez besoin. Ce que je fais aussi, ce que je veux dire, c'est que si on ne le fait pas, concrètement, il vous faudrait quoi ? 2 jours pour lire le contrat avant de le signer, et puis, mais pas d'instant, vous devez travailler, enfin, bref. Donc tout ça, on ne se pose pas ces questions-là, et on essaie juste de collecter ces données, de les rassembler avec des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Hein. Donc, par exemple, vous avez beaucoup de moyens techniques comme... aujourd'hui, vous avez beaucoup de bracelets on vous propose de faire de la marche, de savoir combien de pas vous avez fait aujourd'hui. Tous ces bracelets-là collectent des informations. On fait croire aussi à des recherches sur les ancêtres de la population humaine pour collecter des données sur des données génétiques sur la population. Des gens qui ont accepté ces recherches-là en pensant qu'ils allaient obtenir des informations sur leurs ancêtres. Et puis en fait, derrière, il y avait une autre société qui rachetait les informations à cette association. L'association, dedans, il y a des chercheurs, des gens qui font juste des recherches en génomique pour leur boulot, quoi. Vraiment, qui n'ont pas d'autre intention derrière. Mais cette association est rachetée ou possédée par une autre grosse entreprise, par exemple Google, et qui, ou Genomix pour Google Genomics, qui, elle, va récupérer les informations de cette association-là. Parce que quand on fait des sondages, qu'on demande aux gens « Est-ce que vous donneriez vos informations génétiques à des entreprises ?» Les gens, ils disent non. Et du coup, ça pose un problème pour les entreprises. Parce que les entreprises, elles veulent ces données pour pouvoir faire des techniques qui sont adaptées. Mais comme les gens ne veulent pas les donner, ils font un subterfuge. Ils créent une association qui va, sous d'autres prétextes ou d'autres ambitions, l'éducation, l'histoire, etc., obtenir quand même ces informations. Et ça, c'est clairement les stratégies qui sont développées. Vous avez des banques qui disent ça, hein, qui conseillent ça aux entreprises. Vous trouvez ces discours-là. Donc vous avez ces perspectives-là de recueil de l'information, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas d'accord, on trouvera des moyens plus ou moins ludiques, plus ou moins différents pour recueillir ces informations-là, qui seront rachetées par des sociétés que vous ne savez pas comment, pour obtenir ces informations-là, qui sont a priori privées normalement, et qui théoriquement jusqu'à présent étaient obtenues par votre médecin ou par le cadre médical, et qui maintenant ne le sont plus seulement. Donc on a des problèmes, on verra ensuite en médecine, des problèmes d'éthique sur la privacité, c'est le nouveau terme qu'on emploie maintenant pour parler des aspects intimes qui nous concernent, la privacité des données. Donc il y a centralisation des données qui peut poser problème. Donc on collecte toutes ces données, il faut les centraliser, les traiter. Le fait de les centraliser, ça pose problème, parce que si on les rassemble tous au même endroit, ça donne aussi plus la possibilité de toutes les collecter en une seule fois. Les transmissions médicales d'informations ne sont pas tout le temps encadrées. Pour l'instant, il n'y a pas de loi qui définit tout dans tous les pays. En France, plutôt, on recherche l'encadrement, mais ce n'est pas le cas partout. Et la France, c'est qu'un pays parmi beaucoup d'autres. Hein. On n'est pas le plus important. L'informatique ouvre aussi la voie du piratage. Le piratage de son corps, dans la mesure où son corps devient un corps prothétique, avec des prothèses, un bras mécanique, des jambes mécaniques, qui serait fonctionnel grâce à l'informatique, il n'est pas exclu qu'elle soit aussi piratable grâce à l'informatique. Donc si vous voulez un bras mécanique ou une jambe mécanique, soit vous pouvez l'éteindre à distance, assez facilement, parce que même si, elle est pas, même si vous n'avez pas le contrôle, le fait de tuer un flux électronique, ça c'est facile. Mais dans le pire des cas, vous pouvez aussi prendre le contrôle à distance de ces prothèses éventuellement. On l'a testé pour... on a déjà pris le contrôle à distance de voitures électriques et aussi d'armes. Sur une voiture électronique, il y avait une arme. Et donc, il n'est pas exclu, effectivement, que le piratage rendu possible donc par l'insertion de l'informatique dans ces prothèses les rende donc piratables. Avec des questions éthiques, est-ce que vous êtes responsable, en tant que c'est vous qui avez la prothèse sur vous, de ce que va faire ce bras si vous ne le contrôlez plus? Et comment est-ce qu'on fait? Et jusqu'où est-ce que ça peut aller? Enfin, vous voyez ces questions-là. Donc, voilà. Alors oui, là, il vaut mieux en rire. Pour l'instant. Après, à part ces aspects donc de piratage, bon, ça c'est clairement, c'était mon domaine, hein, l'informatique. À l'époque où j'y étais, on commence en général par le piratage. Bah oui, parce que bon, on fait comme on peut. Hein. On fait le piratage et après on a des cours. Ensuite, vous aviez donc la singularité, donc l'idée d'une ou plusieurs intelligences artificielles autonomes. Déjà, il y a des difficultés sur ce qu'on appelle l'intelligence. Là, je vais juste vous donner des éléments de questionnement. Hein, on ne va pas faire un cours sur l'intelligence, parce que je ne voudrais pas le faire. c'est pas mon domaine, mais par contre mon domaine c'est aussi de voir les problèmes de définition que ça pose. Donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une intelligence ou est-ce qu'il y a des intelligences? Est-ce que l'intelligence c'est que le quotient intellectuel? Est-ce que le quotient intellectuel c'était pas quelque chose qui avait été inventé pour savoir si on pouvait, si des gens pouvaient suivre des cours dans le cadre d'une éducation? Parce que c'était ça. Hein. Est-ce qu'il y a une intelligence émotionnelle ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence? Combien il y en a? Etc. Donc déjà, toutes ces questions-là, on a un peu de mal à répondre. Donc quand quelqu'un nous avance l'idée, surtout en informatique, comme je le vois souvent, de l'intelligence artificielle, et qu'on connaît un peu ces débats-là, en général, pour nous, enfin, en tant qu'informaticien, on rigole un peu. Parce que qu'est-ce qu'on entend par intelligence, ça pose problème. Nous, on parlera plutôt, enfin, en tant que j'étais informaticien, de systèmes automatiques complexes, avec des débats sur la complexité de ce système et son autonomie, les degrés dans cette autonomie. Et pour nous, surtout, une machine, ça ne pense pas, ça exécute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un programmeur, il y a quelqu'un qui a fait un algorithme et qui a donné des permissions, des choses qui étaient capables de faire la machine. Et ça va pas au-delà. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir l'impression que la machine fait ceci, fait cela de manière autonome, que c'est une forme d'intelligence, mais c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on lui a dit de l'exécuter. Et même, j'irais, pour aller dans une perspective un peu radicale, je n'ai pas vu trop de personnes effectivement partager cet avis-là, sauf justement d'autres spécialistes après que j'avais connu. L'informatique ne calcule pas. Ou pour ainsi dire, si elle calcule, c'est parce qu'il y a un humain derrière qui lui a dit ce que c'était que le calcul. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? L'informatique, c'est 0 et c'est 1. Et puis, ça exécute. Et si à un moment donné, vous n'avez pas quelqu'un qui a dit calcul, à un moment où il a dit expliquer comment se fait le calcul, il se passe rien, quoi. Donc, souvent, il y a des grosses idées reçues sur les capacités de l'informatique, sur ce qu'elle permet, etc. Faut voir, voilà, c'est, on est très loin de tout l'imaginaire qu'on colle dessus. Cet imaginaire-là, ce décalage-là, il existe aussi en médecine, hein, sur ce qu'on a, les prothèses, l'image qu'ont les gens sur les prothèses. Donc, l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui imaginent deux scénarios. Hein. Soit des intelligences artificielles qu'on appelle faibles, soit des intelligences artificielles qu'on appelle fortes. L'intelligence artificielle qu'on appelle forte, ce serait l'intelligence qui aurait conscience d'elle-même. Et vis-à-vis de cette conscience d'elle-même, c'est là qu'évidemment la question se pose. On se demande, voilà, comment est-ce qu'elle traiterait les humains? Est-ce qu'elle risque pas de décider que l'avenir sera meilleur sans les humains? Qu'il faut encore les tolérer tant que les humains peuvent servir à l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'elle va les considérer comme des alliés qu'il faut aider, etc.? Ces questions-là se posent à tel point que vous avez des chercheurs de renom, on va dire, on me dira argument d'autorité, hein, ce que je conçois, qui du coup, enfin, c'est pas simplement un argument de autorité, parce que du coup, on a développé des projets de recherche avec un gros financement pour que des gens essayent d'anticiper cet avènement de l'intelligence artificielle pour la canaliser, la contrôler et faire en sorte qu'elle soit plutôt bonne comme mauvaise. Donc on a des vraies craintes sur ce qui va arriver et on essaye de l'anticiper un peu, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, le dernier aspect, mais on en reparlera plus tard, dans l'immortalité, qu'on verra dans la partie médecine, c'est le téléversement de la conscience. Il y a des gens qui pensent qu'on peut... téléverser, c'est le terme québécois, parce que télécharger, c'est pas très clair. C'est, en gros, c'est, donc, du coup, c'est l'idée de prendre sa conscience et de la verser dans, à distance, téléverser, dans une machine, pour être immortel. Il y a deux moyens, enfin, il y a plusieurs moyens d'être immortel, on verra après, hein, la médecine. Je vais m'arrêter là pour la partie sur l'informatique et je vois que j'ai déjà beaucoup mangé de temps. Donc je vais aller très vite sur les autres aspects et on libérera plus la place au débat parce que sinon ça va pas trop intéressant. La médecine. Il y a une confusion souvent entre la recherche pour la santé et celle pour l'augmentation. Avec des lunettes, on restaure la vue d'une personne à la moyenne ou à la norme, mais pas au-delà. Voir dans le noir, ce n'est pas de la médecine comprise comme un soin. Même problème que quand on distingue différents types de chirurgie, dont l'une serait médicale, malgré ses aspects esthétiques, et l'autre serait strictement esthétique. À un moment donné, il y a un franchissement. Et ce n'est pas parce que la différence est parfois difficile à saisir qu'il n'y en a pas. Et là, les médecins seront d'accord sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'un des problèmes eux, que ça leur pose en termes d'éthique, c'est qu'à un moment donné, ils sont là pour faire un soin, c'est leur priorité, faire un soin, et c'est pas tous les médecins n'ont pas pour ambition d'augmenter les personnes dans leur capacité. Il y en a beaucoup qui sont là avant tout parce que leur objectif, entre autres, c'est de rétablir à la norme. Et puis vous comprenez bien que la santé, en quelque sorte, pour eux, est prioritaire sur l'idée de l'amélioration. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les médecins. Je n'ai pas fait une enquête sociologique sur cette question-là. Mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a une différence entre revenir à la norme, qu'on appellera parfois maintenant réparer, pour les personnes handicapées, par exemple, handicapées physiques, donc réparer ou soigner, et améliorer ou augmenter. Le problème de l'amélioration étant ce qu'on entend par ce qu'on appelle amélioration. Parce que vous comprenez bien que si vous mettez une prothèse électronique qui vous permet de mieux utiliser votre bras, et que votre bras il peut être piraté à distance, est-ce qu'on parle d'une amélioration ou est-ce qu'on parle de la création aussi de nouveaux problèmes? Est-ce qu'une assistance de vie, une personne qui viendrait vous assister dans vos gestes quotidiens, serait pas moins dangereuse que cette possibilité du bras artificiel? Mais avec aussi le problème de la personne qui est assistée, qui se dit oui, mais je préfère un bras artificiel que je contrôle moi-même qu'une personne que l'on fait venir exprès pour moi, etc. Enfin, il y a tout un... Comment est-ce qu'on tranche ces questions-là? Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais... parce que ça pose des problèmes aussi, hein, les assistances de vie, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas tout beau aussi. Hein. Donc voilà, il y a ces questions-là. Mais il faut bien voir qu'il y a deux perspectives, et pas simplement une seule, parce que c'est bien le problème. Faire croire qu'il n'y a qu'une seule perspective. L'autre perspective, c'est l'eugénisme. Alors, l'eugénisme, déjà, implique une définition de ce qui est bien. Eugénisme, la bonne origine. Alors souvent on le rattache au nazisme en France pour des raisons historiques, mais l'eugénisme a existé avant le nazisme. Par exemple, on empêchait la reproduction de personnes qu'on considérait comme étant aliénées ou déviantes, ou encore homosexuelles, puisque l'homosexualité était considérée comme une maladie jusque dans les années 70 dans certains pays. Donc du coup, il y avait ces contraintes-là. Donc, l'eugénisme, ça pose une question qu'il ne faut pas forcément relier au nazisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des débats avec une distinction nouvelle entre ce qu'on appelle un eugénisme positif ou un eugénisme négatif. L'eugénisme positif, c'est quoi ? Ça serait de dire, on a une idée de l'avenir et on va sélectionner la bonne origine pour ces personnes-là. Les gènes qui vont être favorables à un bon avenir, par exemple une meilleure intelligence, etc. Si on admet l'idée que l'intelligence est génétique, hein, ce qui est pourtant un problème. Mais bon, c'est juste pour que vous ayez une idée de perspective. Et l'eugénisme négatif, c'est de dire on va empêcher, par exemple, certaines maladies. On sait que tel gène donne lieu à la maladie de Huntington, qui a 33 ans, entraîne une dégénérescence inévitable, etc. Et donc, on va, à la naissance, par le dépistage préimplantatoire éventuellement, empêcher les naissances de cette manière-là. Et là, on parlera d'eugénisme négatif ou éliminatif. Et on va éliminer certaines possibilités. C'est une pratique qui a déjà lieu, notamment pour les personnes quand on fait un dépistage qui éventuellement pourrait engendrer des personnes trisomiques. Et effectivement, là, pour l'instant, ce sont des parents qui, à 97%, si je me souviens bien les chiffres, à 97-98%, décide effectivement d'avoir un avortement pour empêcher ces naissances-là. La perspective actuelle, c'est de présenter cet eugénisme-là en disant qu'il est libéral. Sous-entendu, avant, il y avait un eugénisme qui était, pour ainsi dire, étatique, pour dire nettement, c'est-à-dire que l'État ou la société, en quelque sorte, choisissait pour vous ce qui était bon ou mauvais, quoi. Quelles étaient les personnes bonnes ou mauvaises. Et maintenant, on prétendrait à un eugénisme libéral dans la mesure où c'est plus l'État, mais c'est les parents qui choisissent les enfants qui accoucheront, dont ils accoucheront. Avec un problème qui est la considération de l'enfant, non pas simplement comme étant un enfant, mais comme étant l'enfant, sous-entendu, celui qui aura été préparé par rapport à la naissance à venir, enfin à sa naissance. Et du coup, la difficulté pour l'enfant quand il naît, de se dire qu'il a été sélectionné, choisi parmi d'autres possibilités, donc ça entraîne des responsabilités d'une part par rapport à l'enfant dans le futur dans lequel on l'a entraîné, un peu comme les bébés médicaments, vous savez, les gens qu'on mettrait au monde pour venir pallier un problème qu'aurait un autre enfant. Mais aussi des responsabilités par rapport aux parents, c'est-à-dire que les enfants pourraient, on peut imaginer que les enfants puissent se retourner contre leurs parents, du coup, puisqu'ils ont été sélectionnés, et que s'ils ont des problèmes, ils peuvent dire ah ben, c'est la faute à mes parents, parce que c'est la faute de mes parents parce qu'ils m'ont sélectionné comme ça. Donc vous avez ces questions-là. Je ne prétends pas y répondre, je pose juste des problèmes. Là, c'est des questions d'éthique, hein, donc de toute façon, je ne peux pas prendre la place des gens. C'est bien le problème des questions éthiques, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale. Hein. Enfin, sauf pour certains auteurs. Et cet eugénisme prétend, enfin, a une prétention qui se questionne d'un point de vue épistémologique, c'est la prédiction des maladies à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même du mal. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sociétés aux États-Unis, pas en France, qui prétendent être capables, par une formule génétique, de dire quelles seront les maladies que telle prédisposition aura. Et en France, on est d'accord sur l'idée que c'est pas possible, que la probabilité est pas assez forte pour pouvoir déterminer à l'avance, parce que c'est pas un gène, une molécule. Donc comment on disait ça ?
Un gène, une maladie.
Pas simplement, un gène. Voilà, c'est pas un gène, simplement une protéine. C'est pas ce scénario-là. Maintenant, on est d'accord sur l'idée qu'il y a différents marqueurs, différents niveaux de régulation, et que du coup, c'est pas aussi simple. Il y a des maladies pour lesquelles c'est simple, ou c'est évident. Et il y en a d'autres pour lesquelles ça ne l'est pas du tout. Et le problème des prétentions de cette société aux États-Unis, c'est qu'elles le prétendent pour beaucoup plus de maladies. Avec des problèmes pour les médecins, est-ce que on détecte des maladies, mais est-ce qu'on doit le dire aux patients alors qu'on n'a pas forcément de traitement pour elles? Comment est-ce qu'on gère ça, etc. Et l'eugénisme, alors parce qu'à terme, l'idée pour les transhumanistes, c'est effectivement de programmer en quelque sorte une humanité à venir, qui serait meilleur que celle actuelle. Sous-entendu, jusqu'à présent, on a subi l'évolution et maintenant il appartient à l'être humain d'orienter son évolution, d'orienter l'évolution. C'est que du coup, on a une vision fausse de l'évolution. C'est-à-dire que l'idée que ça sous-entend qu'en fait, on peut prévoir à l'avance quel est le cours de l'évolution, de la sélection des espèces, et qu'on va mettre au point à l'avance des humains qui vont résister aux futures sélections à venir. Or, on ne sait pas quelles seront ces sélections à venir. Donc ça va poser problème. Et la seule chose qu'on peut savoir ou envisager, à la limite, c'est qu'on suppose qu'une plus grande variation des vivants est plus favorable qu'une sérialisation ou qu'une standardisation de ces vivants. Donc à la limite, une plus grande variation génétique est plus intéressante qu'une, justement, l'idée d'une population standard développée ou de manière fonctionnelle. Donc ça c'est ce qu'on peut envisager, mais voilà, on reste dans des scénarios de très peu réel pour l'instant. Et la version la plus radicale, que je dis juste pour l'amusement, c'est la reprogrammation des vivants par David Pierce. Alors, la reprogrammation des vivants, c'est-à-dire pas simplement des humains, mais de tous les vivants, tous les animaux par exemple, pour faire en sorte qu'ils deviennent tous véganes en quelque sorte. On va programmer génétiquement les animaux pour qu'en gros, ils ne mangent que des plantes, c'est-à-dire qu'ils produisent. Parce que David Pierce, il est pour un hédonisme radical, il appelle ça comme ça. Il a diminué la part de douleur de manière radicale en programmant tous les êtres vivants de telle manière à ce qu'ils ne mangent plus de viande, quoi, qu'ils aient plus désir de manger d'autres êtres vivants capables d'avoir la douleur, et qu'ils se soient condamnés en quelque sorte, enfin, par la programmation génétique, à ne manger que des choses qui ne peuvent pas souffrir. Bon, l'autre perspective consistant à mettre au point des steaks génétiques qu'on fait pousser de manière par des cellules dans des laboratoires. En fait, pousser des steaks in vitro, quoi. Ça, c'est l'autre perspective. Voilà. Bon. Voilà. Vous aurez ce débat-là. Je vais. Je ne veux pas rentrer dans les débats des véganes et du véganisme, ça ne sera pas ma perspective immédiate. L'immortalité, et je vais peut-être faire rapidement. L'immortalité, il y a plusieurs promesses. Je vais évacuer les problèmes philosophiques et on va se borner sur les problèmes techniques. Comment est-ce qu'on fait l'immortalisation? La cryogénisation, pour l'instant, elle pose problème. On n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas, on y arrive, mais les cellules se dégradent. La greffe. Alors, on envisage des greffes ou maintenant des autogreffes avec le développement de cellules totipotentes, comment on dit ?
Totipotentes,
excusez-moi, merci. Ah, c'est pas mon domaine. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas encore, mais on l'envisage pour qu'il permettrait en quelque sorte des autogreffes qui diminueraient le nombre, la nécessité du nombre d'accidents de voiture pour augmenter le nombre de greffes. Hein, parce que voilà, concrètement, hein, pour greffer quelqu'un, il faut que son corps, il faut que certains de ses organes soient en bon état, hein, pas qu'il soit vieux et dégénérescent. Et du coup, voilà, pour la plupart des greffes, hein, il faut des accidents. Hein, alors, on envisage la greffe de tête, mais elle pose problème. Hein. Y a un chercheur qui y prétend, mais on a des problèmes au niveau des connexions des nerfs à l'arrière de la tête, parce qu'on pense qu'il faudrait les couper à un moment donné, et du coup, on ne sait pas comment les refaire pousser. Et l'autre perspective, c'est le transfert du cerveau dans une machine. Alors ça, je voudrais ne pas passer à côté de ça parce que souvent les gens ne voient pas le problème. Ils ne voient pas comment concrètement ça pose problème. Ils sont en général contre parce qu'ils trouvent que c'est rigolo. Mais ils ne voient pas comment on peut argumenter là-dessus. Le cerveau se développe vis-à-vis d'un corps. Dire que bon, vis-à-vis d'une génétique, ok. Mais les connexions neuronales, elles ne se font pas par hasard. Et elles se font en fonction d'un corps et des activités que l'on a. Preuve en est, des personnes qui ont des problèmes de souffrance de membres fantômes ou de tout un ensemble d'activités, c'est-à-dire qu'ils perdent un bras, le bras n'est plus là, mais ils ont quand même la douleur. Pourquoi est-ce qu'ils ont quand même la douleur ? Parce que les neurones dans le cerveau, la connexion neuronale, elles n'ont pas bougé. Elles sont restées comme si le bras était là. Et parce que le cerveau, du coup, est développé pour notre corps. Il n'est pas développé de manière hasardeuse. Donc dire qu'on va transférer le cerveau, sous-entendu sa conscience, dans une machine, ça pose un problème, parce que si le cerveau est développé ou pensé pour le corps, alors qu'une machine, ça n'a pas le corps dans lequel le cerveau s'est développé, on peut se demander, il y a un problème au moment d'adéquation entre ce que l'on veut faire et la manière dont ça se produit. Donc il y a, bon, souvent de toute façon, c'est dans les biologies du développement qu'il y a un gros échec de l'informatique, et ça c'est ancien. L'informatique rencontre toujours, quand on compare la biologie à l'informatique, on a toujours un problème sur la biologie du développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau dire voilà, la biologie peut être comparée à un ordinateur, à une machine, on adhère à tout ce qu'on veut, mais dans la phase de développement biologique, la machine, ben, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ça a créé sans arrêt des problèmes. Ça, quand Guillaume l'avait déjà vu, et c'est toujours d'actualité, malheureusement. Enfin, pour ces perspectives-là. Donc non, on ne peut pas et on ne transférera pas pour l'instant un cerveau humain dans une machine. Et on a déjà du mal à simuler le cerveau d'une pieuvre pour la mettre dans un petit robot. Donc je vous laisse imaginer, et ça c'est actuel, hein, la difficulté qu'il y aurait à simuler, on parle de simulation, pas encore de transfert, simuler un cerveau humain, dont on a déjà du mal à comprendre comment il fonctionne, dans une machine. Voilà. Pour faire rapidement. Après, il y a un business de la mort, hein, qui se développe effectivement, qui joue sur la peur de la mort, plutôt, où on va vous développer. Voilà. C'est-à-dire qu'on crée, en fait, avec le transhumanisme, on recrée cette perspective, l'idée que vous allez pouvoir être éventuellement immortel. Il y a des gens qui croient à ça, et on leur développe à côté tout un ensemble de techniques et de moyens pour éviter ces prothèses. Mais les causes de la mort, elles ne sont pas. C'est pas simplement technique. Enfin, il y a des conditions. Enfin, si certains meurent avant d'autres aujourd'hui, c'est pour des raisons bien plus banales. Soit des raisons d'accès à la nourriture, d'accès à des conditions sanitaires, de l'eau potable, l'obésité. Enfin, il y a tout un ensemble de causes qui font la mort plus tôt. Ou dans notre pays, simplement, un ouvrier, il meurt 10 ans avant un cadre, en moyenne. Donc avant d'envisager effectivement l'arrêt de certains phénomènes biologiques qu'il y aurait dans le corps pour obtenir l'immortalité, peut-être qu'on peut voir la question de la mort autrement, en se demandant mais comment déjà est-ce qu'on peut diminuer l'inégalité face à la mort, parce qu'on dit souvent tout le monde est égaux, nous sommes tous égaux face à la mort. C'est faux. Si vous êtes un ouvrier, vous mourrez 10 ans avant, en moyenne, évidemment. C'est évident, je crois, le chiffre exact. disons, avant le cadre. Donc, voilà, il faut rétablir un peu des choses simples qui sont assez oubliées. Dernier aspect. Ah non, excuse-moi. Alors, donc tout ça, ça engendre des promesses frustrations pour la médecine. C'est-à-dire, on va promettre des soins qui sont à venir, on va guérir de toutes les maladies, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, les patients, on leur fait attendre, on va vous guérir de vos trucs, mais en fait, ça n'arrive pas. Du coup, ça engendre de plus en plus de frustrations. Ça, c'est un problème pour les médecins qui rencontrent ça, parce qu'ils ont des patients qui leur disent oui, mais on nous a parlé d'eux dans les médias qu'il y avait cette technique-là pour. Mais en fait, non. Donc, vous avez ces problèmes-là sur la déontologie médicale, surtout quand c'est des médecins ou des chirurgiens qui les prétendent. Je pense à Laurent Alexandre. Voilà. Et vous avez aussi le problème de la médecine non thérapeutique, c'est-à-dire des patients, des personnes saines, qui n'ont pas de problème et qui prennent des médicaments pour prétendument s'améliorer. Pourquoi ça pose problème? D'abord pour des effets secondaires ou des effets addictifs qui n'ont pas été forcément recherchés, puisque on traite, si on fait ces médicaments, ce sont les attestés sur des patients qui ont des problèmes, qui sont en pathologie et pas sur des personnes en bonne santé. Donc il y a des problèmes d'évaluation, de test. Et puis, on ne s'en rend pas trop compte, mais les dispositifs, par exemple, qui encouragent, imaginons qu'on vous dise qu'il faut vous prendre des vitamines, mais qu'on dit ça à une personne qui est cancéreuse, mais qui ne le sait pas, ben, le cancer, il va se nourrir de ces vitamines. Si on encourage quelqu'un avec un bracelet à faire un peu plus de courses qu'hier, mais que la personne, elle a un coronaire qui est à moitié bouché, que je ne sais pas, ben, il y a des chances qu'elle s'expose à un infarctus du myocarde. Ça, c'est, je recherche un peu. François Berger qui dit ça, qui travaille dans ces domaines-là. Donc du coup, un petit dispositif qui paraît anodin, qui donne des conseils de santé, comme le fait de courir un peu plus, ben, il n'a pas des effets anodins selon les personnes à qui il s'adresse, mais il ne fait pas cette distinction-là. Et du coup, les conséquences peuvent être assez graves. Donc c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent là, en plus de la privacité des données de santé dont on a déjà parlé, dont je ne reparlerai pas rapidement. Dernière chose, l'automatisation. Donc il y a aujourd'hui une tendance à l'automatisation dans le travail, avec le remplacement des hommes par des machines dans les travaux. Ça peut paraître une bonne chose, hein, faire disparaître des travaux nuisibles ou aliénants, par exemple. Bon, mais il faut savoir que l'automatisation ou la robotisation ne s'adresse pas qu'à ces travaux-là. Hein. Aujourd'hui, concrètement, c'est pas que les travaux nuisibles ou aliénants qu'on prévoit de faire disparaître, mais c'est plus ou moins l'ensemble de tous les travaux, y compris des travaux de pointe, de médecine, par exemple, de chirurgie. Ce qui va créer une masse éventuellement de chômeurs, hein, dans la société dans laquelle on est. Et souvent, voilà, on nous présente ça sans voir que les relations homme-machine, elles n'existent pas. C'est pas, tiens, la machine vient me remplacer dans une tâche. C'est la machine et moi, on est dans une société. Et la société actuellement, elle recherche la performance. C'est pour ça qu'on emploie des machines, parce que vous comprenez bien qu'une machine qui ne se repose pas, qui n'a jamais de fatigue, ou qui n'a pas de tendinite, quand on remplace le bras d'un violoniste par une prothèse robotique, au début, d'une manière générale, on se dit, ben c'est super, je vais aller voir ce violoniste qui joue super bien, il a un bras robotique et il nous fait des super musiques. Et c'est vrai, hein, il joue très bien. Cependant, dans le cadre de notre société, ce violoniste en fait rentre en concurrence, puisqu'on est dans une société qui fonctionne entre autres par la concurrence, avec ses compétences, avec d'autres violonistes. Et les autres violonistes, eux, ils ont des tendinites quand ils répètent, quand ils travaillent au bout d'une semaine de violon. Enfin, bon, moi, c'est au bout de la journée. La tendinite, tu l'as facilement. Avec la prothèse, tu l'as jamais. Et donc, du coup, c'est au niveau de la manière de traiter ces personnes-là et de leur concurrence dans un milieu, enfin, de leur niveau dans un cadre de concurrence, c'est plus le même. Donc, quelque chose qui paraît anodin, on parle de quelqu'un qui joue du violon. On ne parle même pas d'un chirurgien ou d'activités qui ont lieu avec votre santé. Quelque chose, même dans un milieu anodin, la conséquence de certaines prothèses, dans un cadre d'une concurrence, pose des problèmes qui, eux, ne sont pas anodins. Et une dernière chose sur ça, c'est la réception, c'est la manière dont on voit les prothèses et le handicap. On le présente maintenant de manière positive, alors que les prothèses et le handicap, de manière positive, ça ne concerne que très peu de patients. qui se mettent en scène. Je pense par exemple à une patiente, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a une douzaine de paires de jambes différentes. Lulin, je crois. Bon. Parce qu'elle, à la naissance, elle est née sans la partie en dessous du genou. Et donc, en fait, à ce niveau-là, c'est plus facile de mettre des prothèses. Mais quand on peut mettre la prothèse au-dessus du genou, on a beaucoup de problèmes de gestion de litres de sueur, par exemple. Bon, c'est beaucoup moins agréable à en parler. De beaucoup de problèmes d'insertion, si j'ai bien compris, du membre aussi dans la prothèse. Et en général, les handicapés qui, physiques qui ont ces prothèses-là ne cherchent pas à se faire remarquer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt, contrairement à Mullins, eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt rejoindre la norme et qu'on les distingue plus trop, quoi. Alors que là, souvent, on nous présente, en fait, ces perspectives-là à travers des gens qui constituent des exceptions, qui, elles, sont ravies de présenter leur prothèse en disant, parce que c'est aussi le discours de Mullins à la fin, que vous avez vraiment pas de chance, vous, de pas avoir de prothèse. Sous-entendu presque, ce serait bien que vous vous fassiez amputer, parce que si vous aviez cette chance là ben vous pourriez avoir les mêmes prothèses qu'elle, quoi. Donc il y a un gros décalage entre le discours d'une part qui va valoriser l'emploi de prothèses et la réalité du domaine, et les gens qui travaillent dans la fabrication de prothèses sont confrontés à des problèmes très importants et très basiques, vraiment, sur la transmission de l'information de l'homme à la prothèse, c'est une chose, mais la transmission ensuite de la prothèse à l'homme, c'en est une autre. C'est-à-dire que vous avez un bras artificiel, très bien, mais vous ne sentez pas ce que vous touchez. Alors, sauf certaines nouvelles prothèses qui constituent des exceptions qui vont vous permettre de voir quelques retours d'informations. Mais c'est très rare et c'est très difficile. Et du coup, voilà, la valorisation de ces prothèses, elle est ambiguë. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et que, voilà, je suis désolé, mais...